Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. Dans un communiqué du début de ce mois de novembre, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, et le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, alertent conjointement sur les risques de famine qui menace de nouveau au Burkina Faso et au nord-est du Nigeria. Plus généralement, avertissent ces deux organisations, les taux d'insécurité alimentaire aiguë atteignent de nouveaux sommets à l'échelle mondiale. Les causes de ce phénomène sont bien connues, ce sont les violences politiques et la crise économique liée au coronavirus. Le moment est donc venu de se demander si l'Afrique, qui avait été l'une des principales victimes de la crise alimentaire de 2008, a pris les mesures nécessaires pour se protéger de la répétition d'une telle mésaventure. Et en particulier si la riziculture ouest-africaine produit assez de petites graines pour répondre à la demande des consommateurs. Nous nous demanderons aussi quelles politiques ont été mises en place par les pouvoirs publics et quelle part ont pris les capitaux privés dans ce combat pour l'autosuffisance rizicole de l'Afrique de l'Ouest. Pour répondre à ces questions, quatre invités que je vous présente maintenant. Bonjour Jack Kahn.
Bonjour.
Jack Kahn, vous êtes le président de la société Interval et vous êtes le directeur des relations extérieures de la fondation John Kufour. Dans une autre vie, vous étiez trader Henri à Genève. Vous nous parlez depuis Accra au Ghana et nous partons maintenant au Sénégal où Nadjirou Sall est dans les studios de RFI. Bonjour Nadjirou Sall.
Bonjour.
Nadjirou Sall, vous êtes agriculteur, vous cultivez du riz et des produits maraîchers, vous élevez également des bovins et des caprins dans la vallée du fleuve Sénégal. Vous êtes en plus secrétaire général du ROPA, le réseau des organisations paysannes et de producteurs d'Afrique de l'Ouest. Nous rejoignons maintenant Étienne Duveillé à Bouaké en Côte d'Ivoire. Bonjour Étienne Duveillé.
Bonjour.
Étienne Duveillé, vous êtes directeur de la recherche pour le développement au sein de l'organisation Africa Rice, association intergouvernementale qui regroupe 28 pays africains. Et je termine ce premier tour de table téléphonique ou virtuel, comme on voudra, avec vous, Patricio Mendes del Villar. Bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Patricio Mendes del Villar, vous êtes économiste au CIRAD, le Centre de Recherche Agronomique pour le Développement à Montpellier, d'où vous nous parlez. Le marché du riz n'a pour vous aucun secret. Vous publiez tous les mois un baromètre de ce marché qui contribue à nourrir la base de données Osiris. Et puis bien sûr, des reportages dans cette émission. Nous rejoindrons Lisa Fabian au Nigeria, Théa Olivier au Sénégal et Yaya Boudani au Burkina Faso. Alors je faisais à l'instant allusion à la situation alimentaire signalée par les organisations des Nations Unies. On frôle la famine dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest. Est-ce lié à une production insuffisante de denrées alimentaires comme le riz, Patricio Mendes del Villar?
Oui, cette situation en fait est due plutôt au fait que la production en Afrique plutôt stagne cette année. Mais bon, la situation elle est quand même un peu particulière selon les zones. Hein. En Afrique de l'Ouest, la production est plutôt bonne. Là, vous avez signalé plutôt des situations un petit peu compliquées dans les pays d'Afrique de l'Est.
Étienne Duveillé, est-ce que la production rizicole ouest-africaine en particulier est à la hauteur des besoins?
En fait, on a fait énormément de progrès dans la production rizicole en Afrique et en Afrique de l'Ouest en particulier. Il faut se dire que l'Afrique de l'Ouest, c'est un peu la centrale qui produit la plus grosse partie du riz en Afrique en général. On a fait énormément de progrès, mais le fait est que la consommation change. Il y a une pression démographique qui est très réelle et également un changement dans les habitudes alimentaires qui fait que l'augmentation de la consommation finalement augmente sans cesse, même s'il y a des augmentations de production, on n'atteint pas vraiment encore l'autosuffisance pour combler cette demande croissante.
Patricio Mendes del Villar, où sont en ce moment, à quel niveau se trouvent les cours mondiaux du riz?
Les cours mondiaux du riz par rapport, disons, au début d'année 2020, on est à peu près à 15% de plus par rapport à fin 2019. Alors sur ces 15%, en fait, on avait déjà prévu avant la crise du Covid à peu près une augmentation de 10% des prix en 2020 en raison de la stagnation, voire de la baisse de la production mondiale en 2019 et d'une augmentation de la demande de certains pays d'Asie et d'Afrique. Donc si on fait un parallèle, en tout cas un rapprochement par rapport à la crise sanitaire qu'on vit actuellement depuis quelques mois, le marché a un petit peu réagi par rapport à cette crise, mais en fait c'était déjà une augmentation qui était prévue. Cela dit, il y a une chose qu'il faut quand même souligner par rapport à ça, c'est que cette augmentation a été due surtout au prix des riz thaïlandais et vietnamiens, alors qu'actuellement, l'Afrique de l'Ouest importe beaucoup de riz de l'Inde. Et l'Inde, par contre, a vu ses prix baisser par rapport à la situation fin 2019.
Est-ce que ça veut dire, Patricio Mendez-Huillard, qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest consacre moins d'argent à l'importation de ses besoins en riz que ce qu'elle dépensait il y a un an, par exemple?
Disons que si on prend la part de riz indien qui est importé, oui, les importations coûtent un peu moins cher, mais en fait, après, il faut faire un petit peu la part par rapport à ce qui est importé depuis l'Inde, le Vietnam et la Thaïlande. Moi, je dirais que le coût des importations cette année reste à peu près constant par rapport à l'année dernière.
Alors, Patricio Mendez-Huillard, est-ce que vous pourriez faire ce comparatif par rapport à la situation d'il y a 12 ans en 2008? Est-ce qu'il y a 12 ans en 2008, les prix avaient augmenté autant ou moins ou beaucoup plus d'une année sur l'autre?
Oui, je me souviens qu'il y a quelques mois, on avait, au moment de la crise du Covid, quand ça a commencé, on a beaucoup fait le rapprochement par rapport à la situation de 2008, et on pensait qu'il y aurait une flambée des prix mondiaux, et du fait que fin mars, l'Inde et le Vietnam avaient un peu limité les exportations de riz. Mais en fait, ce sont deux situations complètement différentes. Hein. Je veux dire que en 2008, on a eu vraiment une flambée des prix mondiaux et qui ont été multipliés quasiment par 3 ou 4. Alors que là, comme je le disais tout à l'heure, l'augmentation a été beaucoup plus atténuée. Et en plus, c'est des augmentations qui, en grande partie, étaient déjà prévues par le marché. L'autre différence par rapport à 2008, c'est que là, en 2008, ça avait été considéré comme une crise de l'offre, c'est-à-dire avec des limitations des exportations. Or, on a dit dès le mois d'avril dernier que la situation actuelle allait plutôt tourner vers une crise de la demande, et le fait que des problèmes alimentaires qui sont évoqués en Afrique démontre bien que c'est plutôt du côté de la demande qu'il y a eu un impact.
Voilà, alors on va se rendre tout de suite sur le terrain, Patricio Mendez-Huillard. On va partir au Burkina Faso, alors parce que sur les marchés burkinabés, apparemment, il y a aussi une crise de l'offre de riz local. Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Yaya Boudani à Ouaga.
Ahmed Nissien est l'un des consommateurs fidèles du riz local. Il s'approvisionnait dans une boutique consacrée à ce produit sur place. Mais depuis quelques mois, cette boutique a fermé ses portes.
Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. On a un peu du mal à trouver ce riz-là. Au marché, c'est quasiment invisible. Donc ça fait que, bon, par moment, on est obligé de composer avec le riz importé sur le marché.
Difficile de trouver du riz local à Ouagadougou. Seules quelques boutiques en disposent et à certaines périodes de l'année. Boukari Savadogo est le gérant d'une boutique à Wemtenga, un quartier populaire.
Depuis que j'ai commencé, j'ai pris au moins 3 fois. J'ai pris en quantité pour qu'il n'y ait pas rupture. Bon, on prend 0,5 tonne, 1 tonne. Le riz est bon, c'est une bonne qualité. Donc quand quelqu'un vient même pour prendre là, moi-même je me charge de l'expliquer. comment il faut préparer le riz là. Sinon, si tu le laisses là, il va aller faire la bouillie. Après, il vient dire que non, il a proposé une mauvaise qualité de riz.
Le riz local souvent moins cher sur les marchés que le riz importé. Le sac de 25 kg se négocie à 10 000 francs CFA contre 11 000 ou 12 000 francs pour le riz importé.
Des fois, le riz extérieur, ça monte. Des fois, ça descend, ça arrive au même prix que le riz local.
En 2019, le Burkina Faso a produit 376 537 tonnes de riz padi, ce qui représente 30% de la consommation nationale. Selon Jacob Kema, conseiller à la Confédération paysanne du Faso, les producteurs de riz sont confrontés à de nombreuses difficultés.
Les producteurs sont obligés donc de payer les intrants de leur propre poche pour pouvoir produire. Il y a des bas-fonds également qui sont aménageables, qui ne sont pas encore donc mis en production. Quand on prend par exemple les plaines comme Bama ou bien Bagré, on a un potentiel. Malheureusement, ce qui est aménagé ne représente pas grand-chose. Il y a également donc le problème lié à la consommation. Il faut dire que les producteurs produisent, mais il n'y a pas un appui accompagnement pour que les consommateurs puissent trouver le riz local à disponibilité pour pouvoir consommer. Bon, ce qui fait qu'actuellement, on a constaté que les pays voisins, tels que par exemple le Ghana, le Nigeria, viennent payer notre paddy pour aller transformer et revenir encore nous vendre.
Le pays importe 70% de sa consommation de riz. Pour améliorer la production nationale, le gouvernement a lancé l'initiative 1 million de tonnes de riz. Il s'agit d'apporter un appui aux producteurs. Gaussou Sanou est le coordonnateur de ce programme.
Et cette initiative vise véritablement à travailler, à augmenter en fait le niveau de production à travers l'aménagement de bas-fonds, l'aménagement de plaines irriguées et la dotation des producteurs en semences améliorées, subventionnées, en engrais subventionnés également. Travaille également à faire de telle sorte que nous ayons en fait une transformation adéquate en fait et de la production nationale.
Une fois produit, il est prévu la mise en place d'un circuit de distribution afin que le riz local soit disponible sur les marchés.
Un reportage signé Yaya Boudani Awaga. Jacques Kahn, vous êtes à Accra, au Ghana, mais vous connaissez bien toute cette situation rizicole ouest-africaine. Est-ce que l'initiative 1 million de tonnes de riz des autorités burkinabées est calibrée pour répondre à ce déficit de production locale?
Oui, alors je dirais que c'est une initiative, donc on peut appeler ça un slogan. C'est extrêmement important. Parce que cette initiative 1 million de tonnes cadre, c'est une initiative présidentielle. Maintenant, la question par rapport à l'exécution de cette initiative, les problèmes sont les suivants. Et je pense que ça a été bien capté par le reportage du Burkina. Il s'agit d'aménagement. Il n'y a aucun moyen de pouvoir atteindre cette initiative dans un délai à 5 ans. Sans des aménagements massifs en faveur des petits producteurs, sous réserve qu'ils soient bien organisés. Le deuxième point important est relatif à la mise à la consommation. Il faut des mécanismes de régulation. Les mécanismes de régulation pour la promotion du riz local feront qu'il y a un marché. Une fois que l'on a un marché, les investissements extrêmement onéreux, et on parle bien de 10 000 dollars à 20 000 dollars l'hectare en termes d'aménagement pour avoir des aménagements de durée qui peuvent durer des décennies sous réserve qu'ils soient bien entretenus. Et pour ça, c'est l'État qui met ça. Mais il faut que l'État ait un véritable business plan pour pouvoir justifier pourquoi ces aménagements vont être faits. Et pour cela, le marché est essentiel. Le riz burkinabé est en compétition avec le riz asiatique, qui est subventionné au moment de la production, qui est subventionné au moment de l'exportation. Je ne peux pas comprendre que le riz consommé, produit au Vietnam, chargé sur le port de Ho Chi Minh, transporté en direction de l'Afrique, déchargé au port d'Abidjan, transporté sur Bobo-Dioulasso, et que ce riz-là soit meilleur marché, de meilleure qualité, que le riz local, alors que nous avons tous les éléments. Donc pour répondre à la question, initiative présidentielle, oui, c'est un slogan. C'est extrêmement important que ce soit la vision du chef de l'État, mais après, le problème se pose dans l'exécution. Et pour cela, il faut casser les silos. On doit remettre les organisations paysannes qui produisent au cœur du jeu et s'assurer de la fluidité de la chaîne de valeur de manière à ce que tout cela soit finançable, aussi bien les aménagements que tous les différents segments de la chaîne de valeur.
Ça n'est pas fait pour vous, Jack Kahn, à l'heure où nous parlons ?
Ce n'est pas fait. Alors, il y a un travail qui est en train d'être fait. Nous travaillons avec la Fondation Koufor activement avec le gouvernement burkinabé et surtout les organisations paysannes pour la mise en œuvre sous le leadership du ministre de l'Agriculture. Mais ce n'est pas fait parce que les moyens ne sont pas encore donnés. Il faut aller à l'exécution maintenant.
Nadji Roussal, vous entendez ce que dit Jack Kahn ? Il faut remettre les organisations paysannes au centre du jeu. Vous avez l'impression qu'elles ne sont pas traitées comme elles devraient l'être par les dirigeants ouest-africains, ces organisations paysannes, que les paysans sont la dernière roue du carrosse ?
Bon, la question, c'est pas de remettre les organisations paysannes, les acteurs de ces exploitations familiales sont au cœur, parce que c'est leur métier. L'idée, c'est de dire, dans ce qu'ils sont en train de faire en termes de productivité, de production, sur quelles modalités on devrait les appuyer. Mais pas c'est de les remettre. Ils sont déjà au centre. C'est les premiers acteurs concernés en tant que responsables de la question de la production et en tant que responsable de la question d'offrir l'alimentation.
Certes, Nadji Roussal, mais est-ce que ces organisations paysannes, est-ce que les producteurs sont suffisamment aidés pour pouvoir produire assez de riz ?
Suffisamment aidés, c'est trop dire. La question, ce qu'il faut remarquer quand même en Afrique de l'Ouest, c'est depuis les années 2008, il y a eu autant d'initiatives dans la zone de la CEDEAO pour arriver à ce qu'on a intitulé l'autosuffisance, par différents slogans ou par différentes ambitions de ceux qui ont la légalité de prendre les ambitions, ce que sont les gouvernements, et par des différentes modalités en Afrique. Là, il faut se dire qu'il y a eu quand même des avancées significatives, mais il reste beaucoup à faire sur ces questions. L'une des questions que Ndiak a dit, par exemple, les aménagements hydro-agricoles, particulièrement, on n'a pas de choix d'arriver à l'autosuffisance en riz dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest si on ne renforce pas ce volet, par exemple.
Et est-ce que les fonds sont là ?
Les fonds sont là, c'est difficile à confirmer.
Parce que Jack Kahn disait 10 à 20 000 dollars l'hectare pour irriguer, pour aménager au Burkina Faso, par exemple, c'est ce qu'on appelle les bas-fonds. Est-ce que les fonds sont là ?
Les fonds sont là, je ne pourrais pas... Ce que je peux montrer, c'est quelles sont les avancées que nous avons et quelles sont les difficultés à l'heure actuelle. Je sais qu'au Burkina Faso, du point de vue de la plateforme burkinabé, et j'ai été un peu partout dans les régions du Burkina, ce qui était attendu le plus important, c'est l'aménagement de ces bas-fonds. Si ça, jusqu'à présent, que ça n'a pas été fait, ça veut dire que les fonds ne sont pas encore là. Donc, c'est sur des questions de modalité de mise en œuvre de cette ambition qu'il faut discuter.
Parce que pour l'instant, ce que nous disait Yahya Boudani, c'est que le Burkina ne produit que 30% de ce dont il a besoin en matière de riz et que beaucoup de producteurs vendent leur riz à des Ghanéens, à des Nigérians qui viennent se fournir.
Ce qui n'est pas grave pour moi sur ce plan, parce que c'est du point de vue du repas, nous avons observé une dynamique d'échanges dans la région. Nous sommes dans quoi ? Nous sommes dans la construction du marché régional de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO. Et qu'on quitte du Ghana pour venir au Burkina Faso pour prendre du riz, on est dans la création et dans la modalité, effectivement, de la circulation de nos produits dans notre propre région. La question n'est pas à ce niveau. Ça, c'est même à renforcer, à observer. Par contre, peut-être il y aurait des mesures d'accompagnement pour sécuriser ceux qui produisent et ceux qui sont dans un pays pour qu'on ne vide pas leur stock. Mais on a observé, ça fait 3 ans, deux dynamiques. Les achats institutionnels, la circulation du riz dans la région qui commence à se faire en termes dynamiques entre les acteurs, les premiers concernés, entre les acteurs économiques effectivement et les producteurs dans ces pays. Ce que nous essayons d'appuyer, parce que la politique commerciale qui est en train d'être construite, qui est notre marché régional, n'a de sens que s'il y a circulation de nos productions, dans nos différentes productions au niveau de notre région.
C'est Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de la production du riz en Afrique de l'Ouest, de l'autosuffisance rizicole de l'Afrique de l'Ouest essentiellement, avec quatre invités. Nadji Roussal, que vous venez d'entendre, qui est à Dakar, qui est secrétaire général du ROPA, le réseau des organisations paysannes et de producteurs d'Afrique de l'Ouest, avec Jan Khan, qui est le patron d'Intervalle, qui se bat pour cette autosuffisance rizicole de l'Afrique, avec Étienne Duveillé, auquel je vais donner la parole dans un instant, qui est à Bouaké, en Côte d'Ivoire, qui est un des dirigeants de l'organisation Africa Rice, qui est une organisation intergouvernementale, et avec Patricio Mendes del Villar, que vous avez surtout entendu au début de cette émission, qui est un économiste du CIRAD à Montpellier, le CIRAD qui est un centre de recherche agronomique pour le développement, un centre français. Étienne Duveillé, on a vu ce qui se passait au Burkina, mais ça n'est qu'un exemple, c'est un peu partout la même chose. Il y a 30% de la production qui répond à la demande et puis le reste, c'est de l'importation. Vous évoquiez tout à l'heure dans votre première intervention les changements d'habitude culinaire, les changements de goût des populations, des consommateurs ouest-africains. Est-ce que ce qui se passe en ce moment au Burkina et dans la région témoigne au niveau de la production de cette évolution des habitudes de consommation ?
Effectivement, la pression démographique, comme je l'ai dit, est un facteur important, mais aussi l'urbanisation qui fait que, bon, ça devient plus pratique aussi d'utiliser du riz, et c'est plus pratique dans les régions côtières, par exemple. Dans le cas du Burkina, ce que je vois, c'est que normalement, en fait, on devrait, comme le pays est plus enclavé, on devrait avoir plus un avantage pour la production de riz local, comme l'a dit l'autre interlocuteur. Il n'est pas normal qu'on arrive avec du riz qui vient du Vietnam ou du Cambodge ou d'Extrême-Orient à un prix moins cher que du prix local. Ce que je peux dire, c'est que en fait, le consommateur local apprécie le riz local et toutes les études que nous avons faites ont montré que quand on augmente la qualité, par exemple, du riz local, si on augmente aussi l'efficacité de la chaîne de valeur au niveau de la transformation, on peut vraiment augmenter la demande pour ce riz local et stimuler la production. Comme l'a dit l'autre interlocuteur aussi,
je pense que vous faites allusion à Jack Khan qui est à Accra au Ghana.
Exactement, Jack Khan à Accra. Il y a des investissements à faire aussi au niveau de la mise en valeur de ces bas-fonds. On parle beaucoup de la chaîne de valeur et je crois que l'aspect transformation est excessivement important. Il faut quand même pas oublier non plus que malgré tout, la production, la qualité de la production, la qualité des semences pour que l'agriculteur y trouve son compte et se permette d'investir dans sa production est excessivement importante. Dans les bas-fonds, par exemple, effectivement, le contrôle de l'eau, par exemple, est excessivement important dans le cas du riz. On parle de l'investissement en général pour augmenter la disponibilité en eau, mais il y a aussi des études qui montrent que quand on travaille avec les communautés locales, les communautés paysannes, on peut mettre en valeur les bas-fonds. Nous avons par exemple une technologie que nous appelons Smart Valley, c'est-à-dire les bas-fonds intelligents si on veut, où tout le monde peut intervenir, on contrôle l'eau et on peut doubler les rendements très, très rapidement.
Décrivez-nous ces Smart Valley, parlez-nous d'un de ces projets que vous avez développé, Étienne Duveillé, à Africa Rice.
Africa Rice, avec des partenaires locaux, a mis au point, ou disons, a développé cet ensemble d'approches où, avec les paysans, on utilise les connaissances locales pour, avec des moyens limités, contrôler mieux l'eau, la canaliser sur des canaux centraux pour pouvoir avoir plus d'efficacité dans la distribution de cette eau.
Et ça a été mis en œuvre où ça ?
Ça se met un peu en œuvre dans tous les endroits où il y a des bas-fonds. Le problème, c'est qu'il faut faire beaucoup de formation, mais c'est là où on voit qu'en replaçant l'agriculteur, le petit paysan au centre de la problématique, on peut aussi faire une dynamique avec les associations paysannes, avec les communautés villageoises qui permettent de à la fois créer des opportunités, de l'emploi, et augmenter les rendements. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est pas uniquement d'avoir de meilleures variétés ou d'augmenter les rendements par hectare. On se rend compte que si on veut atteindre la production dont on aura besoin dans les années peut-être d'ici 10 ans, Et on ne peut pas se permettre uniquement, si on veut augmenter le riz local, augmenter les rendements. Il faut aussi un peu augmenter les surfaces mises en culture. Et ça fait partie de cette mise en valeur des bas-fonds dont on a parlé. Par un meilleur contrôle, on peut aussi avoir deux cultures dans certains cas plutôt qu'une. Donc je crois qu'il y a des possibilités. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est de remettre les associations paysannes les communautés locales au centre et de faire des dynamiques où on puisse travailler pour dynamiser toute la filière en engageant les paysans.
Jack Kahn, vous connaissez ces développements de Smart Valleys dont parle Étienne Duveillé ?
Je connais ce projet Smart Valley. On a eu l'occasion d'échanger avec le directeur général Harold McCauley sur ce programme. C'est un programme très intéressant. Vous voyez, il y a énormément de programmes aujourd'hui en Afrique. Et le problème, c'est que la main gauche ne sait pas ce que la main fait droite. On est en silo. Donc c'est une initiative extrêmement intéressante comme le programme OneNet de Kouza, qui gère 4 millions de fermiers aujourd'hui au Kenya, et de manière très intéressante. La technologie est clé aujourd'hui, en ce sens qu'on a l'opportunité de faire le grand saut en couplant l'utilisation de la technologie avec les opérations de terrain, en termes de formation, en termes de supervision de ce qu'on appelle le extension service, c'est-à-dire le suivi des petits paysans, la supervision de manière à s'assurer de la fluidité de la chaîne de valeur, le collateral management receipt, le warehouse receipt du programme de
ça, c'est les entrepôts, le warehouse, hein?
Voilà, les entrepôts. Tout ça doit être aligné. On ne peut plus continuer à avoir des petits programmes indépendants, en général financés par des partenaires au développement, des NGO, qui
des
ne
ONG,
travaillent pas ensemble.
Des ONG, oui.
L'Afrique est le dernier continent où ça peut arriver. Un exemple aujourd'hui que l'on voit est au Rwanda. Ils sont en train d'avancer à une vitesse phénoménale. Le Ghana, dans sa politique Beyond Aid, du président Nana Akufo-Addo, porté par le ministre de l'Agriculture, c'est en train d'avancer. Le président Macky Sall a été le premier à créer ce conseil présidentiel pour la régulation. Donc il y a beaucoup d'initiatives formidables qui sont en train de se passer, mais il faut qu'on s'aligne. J'aimerais revenir sur ce que Naziru a dit tout à l'heure, Sall, en disant on est dans une approche régionale de la CEDEAO. Il faut donner la place à la CEDEAO et à la Commission de l'agriculture et des ressources pour aider à cette coordination. Travaillons tous ensemble, choisissons nos leaders, alignons-nous derrière de manière à exécuter.
Alors vous parliez, Jack Kahn, du programme présidentiel mis en place par le président sénégalais Macky Sall. On va voir quelle est la situation du côté des consommateurs et des importateurs de riz à Dakar avec ce reportage éco-dissier d'ailleurs signé Théa Olivier.
Sortie du travail, Sadia est sur le point de faire des courses. Cette mère de famille sénégalaise utilise principalement du riz pour préparer les plats traditionnels. Tous les mois, elle achète un sac de 50 kilos.
À part le riz de poisson, il y a le yassa, le chebujin, il y a le mafé. Moi, en général, j'ai l'habitude d'acheter le riz brisé. C'est le plus bon riz. Ça vient de l'Inde, mais pour l'instant, je ne prends pas le riz du Sénégal. C'est pas facile à cuisiner, franchement.
L'enjeu est donc de convaincre les consommateurs de la qualité du riz local. Sur l'étalage de Mohamed Diallo, dans un marché de Dakar, plusieurs sacs sont installés, chacun contenant des grains de couleur et de taille différentes. Certains ont été importés, d'autres viennent de la vallée du fleuve Sénégal, au nord du pays.
Avant, il n'y a pas beaucoup de riz sénégalais. C'est une seule qualité qu'il y en a ici, un riz gros grain. Les gens n'aimaient pas. Mais à ce moment-là, il y a beaucoup de qualités. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est bon pour la santé. Parce que tous les gens qui ont des diabètes, on mange le riz sénégalais. Les gens mangent, ça marche bien.
Le président Macky Sall avait promis, dès son premier mandat, une autosuffisance en riz d'ici 2017. Un objectif de 1,6 million de tonnes de riz padi, c'est-à-dire non décortiqué, qui n'est toujours pas atteint. Mais le pays a fait des progrès. En 2012, le Sénégal a produit 400 000 tonnes de riz. Aujourd'hui, il tourne autour de 1,2 million de tonnes. Et cela grâce à un investissement de 200 150 milliards de francs CFA, soit 379 millions d'euros entre 2014 et 2019. Walid Diouf, coordonnateur du programme national d'autosuffisance en riz, explique la stratégie du ministère de l'Agriculture.
Une de ses actions, c'est d'abord la recherche, permettre de mettre à la disposition des producteurs des variétés de riz adaptées par rapport à notre contexte marqué par une instabilité du climat. Le deuxième élément, c'est l'appui un peu à la production en accompagnant les producteurs à avoir accès à des intrants de qualité. C'est des semences de qualité, mais aussi c'est des engrais. Troisième élément, c'est la mécanisation. Entre 2012 et maintenant, c'est près de 2000 tracteurs qui ont été mis dans le monde rural. Quatrième élément, c'est la maîtrise de l'eau pour pouvoir justement sécuriser l'approvisionnement en eau pour les agriculteurs. Un dernier élément, c'est la transformation pour permettre d'avoir un riz de qualité.
Pourtant, le débat sur la souveraineté alimentaire a été relancé au début de la pandémie de coronavirus, alors que le riz distribué aux ménages les plus pauvres était en grande partie importé. Tous les ans, entre 1 et 1,2 million de tonnes de riz arrivent de l'étranger. Mais Moustapha Tall, importateur et distributeur, déplore le manque de coordination entre les importateurs et les producteurs locaux.
Et s'il y avait ce lien-là, en 5 ans, on serait autosuffisant. Parce que les acteurs auront la force pour aller même investir dans la production, parce qu'ils vont gagner de l'argent en regroupant les importateurs au lieu que ça soit en ordre dispersé. Qu'on a un groupe d'importateurs agréés et on leur donne des quotas conditionnés avec la commercialisation du riz local. On réforme la façon d'importer, mais on organise aussi la façon de produire du riz au Sénégal. Ça veut dire que si vous produisez votre paddy, vous n'avez plus le droit de le décortiquer dans des machines artisanales. Il est décortiqué au niveau des unités qui sont modernes, qui peuvent sortir du riz de qualité. Et les gens vont apprécier.
Du chemin reste donc à parcourir avant que le plat national, le tiboudienne, soit 100% sénégalais.
100% sénégalais, le tiboudienne, Nadir Oussal, c'est ce que disait Théa Olivier dans ce reportage depuis Dakar. On en est loin encore. Comment est-ce que vous évaluez les progrès, vous, à votre niveau de producteur de riz, les progrès faits par le Sénégal? Est-ce que votre production, à vous, par exemple, a considérablement augmenté?
En tant que producteur, oui, en termes de rendement. Bon, on est dans une moyenne de 5,5 tonnes par hectare. Pour arriver en compte saison chaude à 6-7 tonnes en fonction de certains éléments. La première chose, c'est que du point de vue sénégalais, on est, en termes de préférence alimentaire, on a une particularité. Les Sénégalais, on fait le choix de consommer des brisures de riz. La première réaction que j'aurais, c'est de dire qu'aujourd'hui, les producteurs que nous sommes, les exploitations familiales que nous sommes dans ce pays, nous avons mis sur le marché sénégalais 100 000 tonnes de riz entier. Ça veut dire que si on devrait prendre seulement le segment du riz entier, on est autosuffisant au Sénégal. Parce que les besoins nationaux ne dépassent pas 50 000 tonnes. La deuxième question fondamentalement, où il y a eu des avancées qu'il faut reconnaître, c'est les brisures. Il y a eu tout un processus entre 2012 et maintenant qui a amené à améliorer la qualité de la transformation et de la commercialisation jusqu'à cette rencontre qui a réuni les commerçants, les producteurs, les consommateurs présentiels qui a eu à prendre un certain nombre de décisions qui devraient être évaluées à l'heure actuelle du point de vue des organisations que nous sommes parce qu'il y a quand même un dysfonctionnement.
Quel dysfonctionnement évoquez-vous là?
Bon, la question c'était de dire, écoutez, les importateurs que vous êtes, vous allez acheter le riz local quand il est produit. Quand vous l'achetez, en fonction de ce que vous l'achetez, on vous donne des quotas d'importation, globalement. Voilà. Mais en voyant tout de suite les sources du ministère du Commerce, vous verrez qu'effectivement, que le Sénégal n'importe plus presque le riz entier.
Donc le ça, riz, c'est une avancée pour oui, le riz entier. Mais ça
oui,
concerne
le riz entier, c'est plus qu'une avancée. C'est-à-dire qu'on a atteint. Mais par contre, il ne règle pas tout. Parce que la préférence alimentaire sénégalaise est sur les brisures. Mais d'une manière générale, au Sénégal, aujourd'hui, on souffre au moyen. Les grands centres urbains sénégalais, effectivement, vendent le riz du Sénégal. C'est très vendu et c'est acheté. Et 5 ans avant, 6 ans avant, c'était pas comme ça. Ça, il faut le reconnaître. Par contre, on n'a pas atteint le niveau, effectivement, en termes d'autosuffisance par rapport à ce programme. À un moment donné, nous avions demandé au ministère une évaluation de programme, d'ailleurs qui a été dictée par le PS Devlata. Mais jusqu'à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas encore rendu les conclusions.
Patricio Mendez-Elvillard, dites-moi comment vous évaluez, vous, les progrès réalisés par l'Afrique de l'Ouest vers son autosuffisance agricole et comment les efforts, la coordination, vous les voyez. Jacques Kahn disait, la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche. Est-ce que vous reprendriez cette formule ?
Oui, je pense que c'est une formule qui est assez parlante. Hein. C'est vrai que toutes les initiatives aussi pour améliorer la production, que ce soit au niveau local, régional, dans le pays, et c'est bon, quoi. Je veux dire, c'est toujours une bonne chose. Cela dit, je crois que des fois, on raisonne à l'échelle nationale comme si c'était à peu près partout pareil. Il faut distinguer la situation dans des consommateurs ruraux et les consommateurs urbains. Je pense que dans un premier temps, tous les efforts pour améliorer la production doivent permettre d'améliorer l'approvisionnement des zones rurales. Parce que moi, je le vois, on parle là du Sénégal, mais notamment par exemple en Casamance, les producteurs de riz produisent du riz pour 3 mois de consommation. C'est-à-dire que le reste du temps, eux-mêmes, ils sont obligés d'acheter du riz importé. Donc ça, c'est une situation déjà qui... Il faut déjà cibler les zones sur lesquelles on veut travailler et vraiment se mettre sur le long terme. C'est vraiment sur le long terme. Dire qu'un pays, quel qu'il soit, va atteindre son autosuffisance à une échéance de 5 ans, et ça a déjà été dit par les autres participants à l'émission, c'est pas réaliste, c'est même contre-productif parce que personne n'y croit et parce que les investissements pour arriver à atteindre cette autosuffisance, ils sont colossaux. On n'est plus comme dans les années 80 où effectivement les bailleurs, il y avait beaucoup d'argent qui était investi dans la riziculture ouest africaine, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je pense que il faut raisonner par région et aller d'une manière progressive à améliorer la situation. Et de l'autre côté, la situation des villes, malheureusement, je pense qu'à une échéance de 5 voire 10 ans, ne pourront pas se passer des importations. Là, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est de la compétitivité ou la concurrence déloyale des pays asiatiques par rapport au prix du riz. Je pense que c'est pas forcément une bonne approche que parler en termes de uniquement de prix et à la production et des coûts de production. Je pense que les problèmes de l'Afrique de l'Ouest et le surcoût de la filière ne vient pas simplement de la production. Il y a des surcoûts au niveau des transports, au niveau de la commercialisation, de la transformation. Et puis, un autre problème qui a été évoqué aussi, c'est que le riz local, on ne le retrouve pas pendant toute l'année. Les consommateurs, ceux qui mangent du riz, ils mangent toute l'année. Contrairement aux consommateurs ruraux, hein, moi je le voyais dans les enquêtes qu'on fait, je leur demandais, bon, quand il n'y a plus de riz, qu'est-ce que vous faites ? Ben, on mange autre chose. Donc les consommations au niveau rural évoluent beaucoup au fil des mois, contrairement aux consommateurs urbains qui ont une consommation de riz beaucoup plus constante dans l'année parce que ils ont accès au riz importé de manière régulière.
Donc, alors, Patricio Mendez-Alvilar, on va voir un cas concret qui est le cas du Nigeria, qui est probablement l'un des plus gros importateurs de riz au monde avec les Philippines en Asie. Au Nigeria, depuis son élection en 2015, le président Buhari a fait de la promotion de l'agriculture un des éléments clés de son discours. Il souhaite lui aussi que le pays puisse passer des importations de riz. Et pour ce faire, il a pris une mesure assez forte. Il a fermé les frontières avec les pays voisins pour bloquer les importations de riz. Et de l'autre côté, les petits paysans peuvent emprunter directement auprès de la Banque centrale, ce qui est assez original. Ce sont des mesures importantes parce qu'au Nigeria, 2 actifs sur 3 sont agriculteurs. Dans l'état de Benue, au centre du Nigeria, les producteurs de riz sont nombreux. Elisa Fabian est allée à leur rencontre pour ce reportage des Codiciers Éco d'ailleurs.
Le long de la rivière Benue, Makourdi étend ses toits de tôle sur les flancs d'une petite colline. À l'entrée de la ville de 350 000 habitants, une sculpture en mauvais état représente un panier de légumes et de fruits aux couleurs défraîchies et rappelle que de part et d'autre de l'immense pont qui enjambe la rivière, l'agriculture est au cœur de l'économie locale. Les petits fermiers cultivent l'igname, du maïs, du manioc et surtout du riz. Siméon Deg fait partie d'une coopérative locale. Grâce à un programme d'aide, il a reçu des graines et une formation pour transplanter le riz.
Tout ce que vous voyez là, sur un hectare et demi, pourra être repiqué dans un autre champ. J'ai commencé à travailler de cette manière en 2018 et j'ai constaté que ça marchait très bien. J'utilise des graines améliorées qui donnent un meilleur rendement que la variété de riz local.
La plupart des agriculteurs du Nigeria sont de petits producteurs, sans formation et sans capital. Pour accéder à des financements ou obtenir de l'engrais, ceux-ci sont fortement encouragés à s'associer en coopérative. Une manière de limiter les risques extrêmement élevés dans ce secteur. Tarkan Deshia en sait quelque chose. Ce vice-proviseur dans un lycée de Makourdi s'est lancé dans la culture du riz pour améliorer ses revenus. Mais cette année, la récolte risque de tourner court.
Pour moi, le plus grand défi, c'est la présence des éleveurs autour de la ville. J'ai planté du riz cette année, mais malheureusement, ils ont envahi ma ferme. J'aurais dû commencer à récolter bientôt, mais il ne me reste plus que la petite portion que leurs bêtes n'ont pas mangée. Je ne peux rien faire contre ça. Et je m'estime déjà heureux de ne pas avoir été tué. J'espère que les autorités trouveront une solution pour l'année prochaine.
La sécurité est un énorme défi dans le secteur agricole au Nigeria, qu'il s'agisse des conflits entre éleveurs et agriculteurs ou de la présence djihadiste au nord du pays. Le changement climatique est l'autre menace d'envergure. Jacob Aonogbu en a fait la mère expérience.
Ce qui est arrivé, c'est que les inondations ont ravagé ma ferme. Plus de 33 hectares qui ont été entièrement submergés et détruits. Il y a des gens qui travaillent pour moi en ce moment même pour essayer de sauver le peu qu'il reste à récolter. Et financer tout ça, c'est toute une histoire. Je dois courir par monts et par vaux pour trouver un peu d'argent et payer mes salariés.
Alors que la sécheresse se profile dans l'état de Benoué, au nord du Nigeria, ce sont les inondations qui ont englouti un quart de la production annuelle espérée. Cette année, elle sera moins importante et de moins bonne qualité.
Nous avons un problème en ce moment, parce que le riz est rare. Et sur le marché, il se négocie à des prix très élevés, surtout le riz transformé. Mais on manque d'eau. On espérait plus de pluie au mois d'août et maintenant, la saison humide est déjà terminée. Du coup, beaucoup de cultures ont séché. C'est vraiment un problème qu'il n'y ait presque pas de riz.
Jacob Mbi gère la ferme de Joseph Encha dans le village voisin. Ce fonctionnaire à la retraite a réussi à diversifier sa production et il a récemment pu investir dans l'achat de machines pour décortiquer et transformer le riz et ouvert une petite usine près de son village.
Je cultive du riz depuis très longtemps. Autrefois, notre plus gros problème, c'est qu'on avait du mal à le vendre. Parfois, il n'y avait pas d'acheteurs. Parfois, ils venaient et négociaient des prix très faibles. Donc j'ai fini par comprendre que si j'avais les ressources nécessaires, je devrais les investir dans la transformation pour créer de la valeur ajoutée sur ma production pour faire plus de bénéfices que lorsque je le vendais non décortiqué.
Même si la majorité des producteurs travaillent sans équipement et que des cailloux se mêlent parfois aux grains décortiqués, le riz nigérian se vend suffisamment cher sur le marché local pour pousser d'autres petits agriculteurs à tenter l'aventure, même si beaucoup d'entre eux n'ont même pas les moyens d'assurer leur culture contre les intempéries.
Un reportage signé Lisa Fabian dans la province de Benoué au Nigeria. Étienne Duveillé, vous êtes vous à Boaké en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous sentez pas un peu mis en cause par ce qui a été dit au cours de cette émission et qui arrive bientôt à son terme, soit par Jack Kahn, soit par Patricio Mendez-El-Villar, à savoir que les moyens ne sont pas mis réellement pour l'autosuffisance rizicole du continent, et en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, et que quand les gouvernants promettent cette autosuffisance, finalement, c'est contre-productif parce que ça n'arrive jamais.
Disons que c'est évidemment assez frustrant de voir que les choses n'évoluent pas assez vite. Quant à être mis en cause, je veux dire que j'étais plus interpellé par le dernier reportage, quand on nous parle par exemple de changement climatique. Effectivement, le changement climatique est une donnée supplémentaire qui vient accélérer le problème. Et je voudrais un peu insister là-dessus, parce que oui, nous sommes mis en cause quand on parle du renouvellement des variétés, par exemple. Et c'est une grande priorité pour Africa Rice et pour tous ceux qui travaillent dans l'amélioration du riz. Peut-être que je reviens de nouveau à l'aspect technologique ou de développement de nouvelles technologies avec, l'exploitation de la science pour justement apporter plus de bénéfices aux agriculteurs. Quand on parle d'inondation, en fait, on peut parler d'inondation, on parle de sécheresse, on a tout une panoplie de contraintes abiotiques qui commencent à émerger. Nous, à Fécarais, avec le programme national au Nigeria, avons mis par exemple au point des variétés, notamment au Nigeria, qui ont un caractère génétique qui permettent de résister à la submergence pendant 10 jours. Ce qui fait que si ces variétés sont multipliées assez vite et que la semence est disponible, on commence à avoir des réponses pour justement ce genre de situation. Et je voudrais insister là-dessus, parce que en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que on reste avec des situations un peu de statu quo, où il n'y a pas de renouvellement de variétés. Et tous ensemble, non seulement nous devons créer de nouvelles variétés, mais nous devons aussi améliorer les systèmes de production de semences avec les programmes nationaux, de telle sorte qu'on puisse mettre à la disposition les variétés qui répondent au changement climatique. Et il ne faut pas perdre de vue que le renouvellement de ces variétés doit se faire d'une manière beaucoup plus accélérée.
Très brièvement, Nadji Roussal, parce qu'on approche vraiment de la fin de l'émission, mais vraiment très brièvement, vous, les nouvelles variétés, vous en avez eu dans la vallée du fleuve Sénégal ?
Oui.
Et ça a amélioré vos niveaux de production ?
Non seulement ça a amélioré nos niveaux de production, mais ça a accéléré la préférence. En même temps, ça a aidé à la préférence de la consommation du riz sénégalais. Très rapidement, nous avons eu à gagner en termes de goût. Moi, dans la vallée des fleuves, nous produisons des variétés avec toutes les formes de parfumés, non parfumés, tout ça, on les produit maintenant. Et ça voudrait dire, effectivement, on respecte ce que le consommateur sénégalais cherche.
C'est une note positive, malgré tout, pour terminer cette émission, Jack Kahn.
La note positive est de dire qu'il y a un alignement aujourd'hui du politique, du secteur privé, des organisations paysannes pour atteindre cette sécurité alimentaire. C'est l'opportunité unique de créer des emplois massifs pour les jeunes, connaissant nos problèmes de migration et de terrorisme qui sont liés à cela. Maintenant, pour qu'on walk the talk, comme on dit en français, il faut aller à l'exécution de programmes bien réfléchis, transparents, à la gouvernance et au reporting précis qui doivent être axés sur 2 points. Aménagement massif et la régulation des mécanismes clairs, lisibles pour la promotion du riz local. Tant qu'on ne fera pas ça, on restera dans des slogans. Nous avons le leadership. Les présidents africains se sont engagés. Macky Sall, Bouhari et d'autres, Nana Akufo-Addo, mais il faut qu'on accompagne, c'est à nous d'exécuter cela. Ce n'est pas aux politiques. Le politique met l'environnement en place, c'est au secteur privé, aux organisations paysannes, aux fermiers, de mettre en œuvre. Et il faut pouvoir reporter régulièrement, de manière lisible et transparente, sur les avancées. Tous les pays n'avanceront pas dans la CEDEAO au même rythme. Allons avec les champions, de manière à créer cet effet d'entraînement.
Merci Jack Kahn, cette émission est maintenant terminée. Merci à vous quatre, Étienne Duveillé, Nadji Roussal, Jack Kahn et Patricio Mendes-Denis-Villard, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous podcaster sur l'application Pure Radio de RFI. La semaine prochaine, de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.